Bonjour, peut-être allez-vous être surpris aujourd'hui car dans ce nouveau numéro du magazine Idée, nous allons parler football à l'occasion de l'ouverture du nouveau championnat d'Europe des Nations, l'Euro 2020. Nous n'avons pas la prétention ici de faire concurrence à Radio Foot International et à nos amis qui l'animent chaque jour, mais nous allons parler de ce sport qui est plus qu'un sport, un langage universel. Nous n'allons pas commenter les matchs, les championnats, les compétitions comme le font si bien Annie Gasnier et son équipe, ainsi que le service des sports, mais parler d'une passion absurde et dévorante, pour reprendre le titre du livre de notre invité aujourd'hui, l'écrivain Olivier Guèze. Idée, un magazine que vous pouvez aussi télécharger sur notre site RFI.fr ou sur votre moteur de recherche préféré pour l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également vous y abonner. Bonjour Olivier Guèze.
Bonjour Pierre-Edouard.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. Éloge de l'esquif, c'est un livre que vous avez publié en 2014 et réédité en poche, enrichi d'un texte sur Zidane. Nous allons en parler dans un instant. Nous en avions parlé en 2014, justement. Je crois que ça devait être à l'occasion d'une Coupe du Monde de foot, évidemment. Je voudrais signaler aussi, même si ça n'a aucun rapport, évidemment, votre livre qui a reçu le prix Renaudot, La disparition de Joseph Mengele, l'ancien médecin tortionnaire d'Auschwitz, réfugié en Argentine en 1949, puis en fuite au Paraguay et au Brésil, où il a trouvé la mort dans des circonstances bizarres en 1979. C'est un très beau livre, je voudrais le dire aussi et le répéter comme tant d'autres, même si c'est pas du tout le sujet de l'émission aujourd'hui. Vous êtes tombé dans la passion du football, très précisément en 1982.
Oui, à l'occasion de la Coupe du Monde en Espagne, je venais de découvrir le football, je commençais à m'y intéresser, ça faisait quelques mois que je jouais, mais enfin avec mes copains dans la cour de l'école, et je suis tombé en pamoison littéralement à l'occasion du premier match que j'ai pu voir à la télévision. Je me souviens très bien, c'était chez mes grands-parents, c'était le lendemain de mon anniversaire, et c'était un France-Angleterre qui s'était pas du tout bien passé pour l'équipe de France. Mais il s'était passé quelque chose. Je quittais le salon de mes grands-parents, ma famille, ma communauté, la ville de taille moyenne, Strasbourg en l'occurrence, où je vivais enfant, pour intégrer une communauté mondiale quelque part, c'est-à-dire celle des amateurs de foot. Et j'étais en liaison quelque part avec la planète. Et j'étais sidéré en fait que tout le monde autour de moi parle de la même chose et pense à la même chose. Donc il y a eu un passage qui s'est fait ce 16 juin 82.
Alors ce qui est intéressant, c'est que l'écrivain que vous êtes est inspiré par le football aussi.
Et moi je fais pas de différence, c'est-à-dire je pense que le football, au-delà du sport, la discipline, qui est encore un peu mauvaise presse en France, je trouve ça un peu triste qu'au début du 21e siècle, on continue quand même un peu à considérer l'amateur de football comme parfois comme un abruti. Le football, moi, m'a ouvert des portes extraordinaires, m'a fait découvrir le monde, m'a permis de comprendre le monde, l'histoire des villes, l'histoire des pays. C'est un viatique extraordinaire, c'est une culture formidable. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ce recueil de textes, une passion absurde et dévorante.
Est-ce que finalement, Olivier Guèze, est-ce que la France est véritablement un pays de football?
Je pense pas, non. Je pense que pendant très longtemps, il y a un texte que j'avais publié dans Le Monde et qui est repris dans le recueil à l'occasion de la Coupe du Monde 2014. Ce qui m'a frappé, moi, en ce qui concerne la France par rapport à nos grands voisins, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays latins et évidemment les grands pays d'Amérique du Sud, c'est qu'en fait, on aime le football lorsque les résultats suivent. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les Français, quelque part, peuvent se retrouver l'image qu'ils se font d'eux-mêmes dans les résultats de l'équipe de France. Mais par exemple, si on prend les années 60 ou le début des années 90, il y a une désaffection totale parce que l'équipe n'est pas très bonne et donc elle n'est pas soutenue. Par contre, au début des années 80, lorsqu'il y a la grande équipe de Platini, évidemment, au tournant du siècle avec l'équipe de Zidane et puis là le dernier titre de champion du monde en 2018, là évidemment il y a un engouement. Mais au fond, il y a eu différentes choses. D'abord, la France était un pays moins industriel que, par exemple, l'Angleterre et l'Allemagne, où là, vraiment, si on regarde les clubs historiques dans ces deux pays, c'est vraiment des bastions industriels. Par exemple, c'est les grandes villes de la Ruhr, où vous avez des clubs en Allemagne comme Dortmund, comme Schalke, comme Mönchengladbach, comme Leverkusen qui se tiennent en quelques kilomètres. Donc là, c'est vraiment le bastion industriel et donc c'est un sport prolétaire où on joue au football. C'est pareil dans les grandes villes minières de l'Angleterre, les grandes villes industrielles. Et en France, on n'avait pas ce tissu industriel. Et on privilégiait plutôt le rugby et le vélo. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a l'espèce de mépris des intellectuels pour le football. C'est Sartre qui se demande, est-ce que vous imaginez la tête de mes collaborateurs au temps moderne, si on parlait football ou si j'aimais le football? Donc il y a vraiment une espèce de dégoût comme ça, enfin, assez typique d'une certaine partie de la gauche française qui parle pour le peuple mais qui en a un petit peu peur quand même. Donc il faut se tenir à distance. C'est l'opium du peuple, ça détourne le peuple, le prolétariat des véritables préoccupations. Et ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud, où parmi les plus grands écrivains se sont intéressés au football et sans aucune honte. Par exemple, le chanteur Chico Buarque, qui est aussi un grand écrivain brésilien, lui, il adore le football, il joue au football, et c'est pas un problème.
Olivier Guèze, partons dans le monde du football, continuons notre promenade avec ses émotions, sa passion. Écoutez ce premier montage sonore dans lequel vous allez écouter notamment Gilberto Gil, un autre brésilien, guitariste, chanteur, compositeur et même ministre, ainsi que des supporters français en 1998 et en 2018.
C'est une passion comme pour tout le monde, spécialement au Brésil. Nous sommes tous passionnés par le foot. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut objectivement parler de. C'est absolument subjectif. Ça appartient à un niveau peut-être mythologique même. C'est la reconstitution d'une certaine possibilité mythologique à la vie moderne qui, plus en plus, perd cette qualité-là. Le foot continue à donner à la planète entière, pas seulement à certains peuples, le foot continue à donner cette possibilité-là d'une nouvelle mythologie. C'est un mythe universel.
Quando a seleção marcar gol, serão séculos e mais séculos, desde que na velha China, no velho Japão, jogava-se com balão, e na antiga Grécia ou na França medieval praticava-se o futebol, futebol. Quando a seleção marcar gol.
Ah, c'est magnifique, c'est trop beau, ils ont joué comme des dieux.
C'est extraordinaire, on attendait ça depuis 82 et aujourd'hui c'est le plus beau jour. C'est le plus beau jour que la France ait connu depuis la libération. Tout le monde fait la fête, on n'a jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, c'est la première fois. Il y a un bain de fraternité, c'est formidable.
Énorme, énorme, c'est grandiose. Tout Paris est dans la rue. On est les premiers Français à vivre ça. On n'est certainement pas les derniers.
Allez, oh, allez, les Bleus, allez.
C'est le moment de consagration.
On est les champions du monde.
Aujourd'hui, on est venu accueillir les héros de la France. La France qui gagne, c'est inexplicable en fait. Il faut être là pour vivre le moment, l'événement.
Merci.
C'est un rêve en fait. Moi, je me sens bien, moi, je me sens heureux.
C'est la première fois qu'on voit les gens unis comme ça. 98, j'avais 12 ans.
Là, c'est mieux maintenant.
Ça fait du bien des victoires comme ça en ce moment ou quoi?
De fou, surtout dans les temps qui courent.
J'ai eu le problème en fait avec ça. On a tous des problèmes, tu vois. On a tous des problèmes, non? Chacun a ses problèmes. Soit on est riche, pauvre, malade, beau, moche, gros, et bah grâce à ça on oublie le problème en fait.
Vous écoutez Idée, nous parlons football, vous l'avez compris, ce dimanche nous sommes en compagnie d'Olivier Guèze. Ces victoires, notamment en finale de Coupe du Monde, nous mettent dans un état second?
Oui, un état de transe. Il y a différentes choses en fait. Et le son est intéressant. Les personnes interrogées successivement parlent de communion, parlent
de fraternité.
De fraternité. Moi, ce que j'appelle dans le bouquin une pause métaphysique, c'est-à-dire que vraiment pendant 2 heures, vous sortez de vous-même. Vous êtes ailleurs, vous vous concentrez simplement sur un match, sur 11 hommes affrontant 11 autres hommes, 11 autres femmes. Et c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Il y a une espèce de coupure. Et puis, ça lie les gens. Alors, moi, en 2018, j'étais pas en France, j'étais en Russie, puisque je suivais la Coupe du Monde pour le quotidien Le Monde. Mais en 2016, je me souviens très bien, pendant l'Euro qui était organisé en France. Alors là aussi, ça avait mis un peu de temps au départ. Ouais. Les Français étaient, ouais, bon, un peu, comme toujours, un peu réticents, un peu sceptiques. Et puis, il y a eu un miracle pendant 4 jours, entre la demi-finale contre l'Allemagne et la finale perdue contre le Portugal. Et là, j'ai retrouvé une certaine idée de la France que j'aime et qu'on aime tous. C'est-à-dire des gens qui se parlent, une fraternité dont on parlait, une cordialité dans les rapports. Malheureusement, ça a duré que 4 jours, puisque quelques jours plus tard, c'était le camion djihadiste à Nice. Mais le football permet ces moments-là, et Gilberto Gil parle de mythologie, il a entièrement raison.
Le mot est fort, mythologie. Hein.
Mais c'est exactement ça, et c'est la beauté de la chose. Alors tous les matchs ne créent pas une mythologie, un match de Ligue 1, c'est pas nécessairement de la mythologie, mais lorsqu'on arrive justement à ces grands tournois, à ces Coupes du Monde, à ces Euros, il y a quelque chose qui se passe et c'est magnifique et les gens en ont besoin.
Alors ceux qui sont emportés ne sont pas forcément des amateurs acharnés de football. Vous écrivez, Olivier Guest, que l'amateur de football est un être superstitieux, lunatique et irrationnel.
Absolument. Bah, regardez les supporters. Superstitieux, parce qu'on a tous des gris-gris.
Vous en avez, vous ?
Moi, j'en ai quelques-uns. Mais moi, je suis pas un bon supporter. Moi, j'aime le football pour le football. Je décris l'amateur de football. Et il m'arrive, moi aussi, vraiment, de soutenir mon club, du Racing Club de Strasbourg. Moi, j'ai un grand fait pour les équipes d'Uruguay et d'Argentine, par exemple. Où là, vraiment, je deviens supporter, quelque part. Je quitte un peu ma neutralité. Mais oui, bien sûr, j'ai des gris-gris.
Vous aimez toujours autant le Brésil, parce que ces dernières années, le Brésil n'est plus tout à fait le Brésil de Garrincha, que vous décrivez formidablement bien, d'ailleurs, dans cet éloge de l'esquive qui est publié à nouveau dans le livre de poche.
J'aime toujours le Brésil quand il joue disons, lorsque les artistes peuvent s'exprimer, mais j'avoue, j'ai un faible encore plus fort pour l'Argentine et l'Uruguay. Ouais. Mais ça reste le football sud-américain, ça reste de magnifiques équipes, ça reste certains très grands joueurs. Et puis c'est surtout le spectacle dans les tribunes qui est exceptionnel. Pour ce livre, donc j'ai passé presque 2 mois à Buenos Aires, j'ai eu la chance d'aller au stade de Boca Juniors, donc dans le quartier de la Boca, la Bombonera. Mais c'est incroyable, c'est un dimanche matin, c'est un match contre un énième club de Buenos Aires, 50, 60 000 spectateurs, le stade tremble, les gens chantent, communient, fraternisent pendant 90 minutes avec les papelitos, ces espèces de confettis comme on fait en Argentine, mais c'est incroyable. Moi j'ai été dans beaucoup de stades, j'adore ça, mais ce que j'ai vu à Boca, à la Bombonera, et encore moi je suis plutôt supporter de River Plate, donc vraiment le club ennemi de Boca, mais c'est un spectacle hallucinant. Un amateur de football doit avoir la chance un jour d'assister à un match d'une grande équipe de club en Argentine.
On reparlera, Olivier Guest, de l'Argentine avec Maradona, évidemment, tout à l'heure. Mais arrêtons-nous un instant en Angleterre. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez joué même au foot dans le Sussex, il me semble. Là aussi, il y a en quelque sorte une religion du football.
Bien sûr. Alors moi, j'ai eu la chance. Donc j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. J'étais en Erasmus à l'université de Sussex, à Brighton. Et j'ai intégré l'une des équipes de l'université. Et j'ai eu accès à une Angleterre à la fois rurale et prolétaire, à laquelle généralement les étudiants Erasmus n'ont pas accès. J'ai voyagé avec l'équipe de l'université, on a gagné la Coupe de Sussex. C'était fabuleux, c'était fascinant. C'était vraiment la culture pop, la culture prolo de l'Angleterre. C'était extrêmement intéressant. Après, c'est une équipe universitaire, donc c'est pas non plus les bas-fonds de Birmingham. Mais quand même, ça a été une expérience extrêmement marquante, très belle.
Dans un de vos textes, Olivier, vous parlez aussi de ces deux Allemagnes qui se retrouvent aussi, même aujourd'hui dans le football, en décrivant deux clubs singulièrement différent, Leipzig, celui de l'Est, et Dortmund, celui de l'Ouest.
Alors je décris l'idée de ce papier que j'avais publié dans Le Point il y a quelques années, c'était de raconter un petit peu le destin de l'ex-Allemagne de l'Est, enfin, ce qui est toujours l'Est de l'Allemagne aujourd'hui, à travers l'histoire de trois clubs. Et donc il y avait le RB Leipzig, qui est un club qui a énormément de succès, et qui a confirmé ses succès depuis que j'ai écrit cet article il y a 3-4 ans. Il y avait le club de Dresde, et il y avait un club, un petit club encore à l'époque, mais mythique, qui s'appelle le FC Union à Berlin. Vraiment à l'est de Berlin. Et c'était fascinant parce que, quelque part, Leipzig est une ville qui a très bien digéré la réunification, qui a retrouvé un petit peu son statut de grande ville commerciale, et Red Bull, à qui appartient le club, a monté un club qui finalement ressemble assez à cette ville, extrêmement dynamique et qui a eu beaucoup de succès. De l'autre côté, vous avez Dresde, l'ancienne capitale des rois de Saxe, qui a toujours été un peu à part à l'époque de la RDA, parce qu'elle était dans un coin qui empêchait finalement les habitants de Dresde d'avoir accès aux médias ouest-allemands, notamment la télévision. Et on sait que Dresde, c'est aussi la ville de Pegida, c'est une ville particulière avec une histoire très chargée, totalement détruite en 1945 par les bombardements alliés. Et le club de Dresde, qui était l'un des plus importants à l'époque de la RDA, ne s'est jamais vraiment remis de la réunification. Il y a eu toutes sortes de magouilles financières. Et le club a très longtemps été associé à des hooligans parmi les plus violents, des clubs de supporters vraiment d'extrême droite. Et puis, vous avez le troisième, qui est le FC Berlin Union, qui est un petit club tout à l'est de Berlin et qui, lui, raconte un autre Berlin, qui n'est pas celui du tout, pour ceux qui connaissent Berlin, le Berlin de Mitte, le Berlin un peu branché, mais c'est vraiment la culture prolétaire qui existe encore à Berlin, qui est un peu plus éloigné. Et alors, pour aller au stade du FC Union, par exemple, il faut traverser une forêt. Enfin, c'est magnifique, c'est un petit stade à l'anglaise. Et je trouvais que ces trois clubs racontaient un petit peu le destin de cette Allemagne de l'Est. Ça, c'est un exemple, en fait, des choses qu'on peut raconter autour du football. En tout cas, moi, ce sont des choses qui m'amusent.
Et que vous faites très bien, d'ailleurs, Olivier Guèze, doit-on le souligner. Puisqu'on parlait de mythologie, puisque nous sommes à l'est de l'Europe, enfonçons-nous un peu plus à l'est, il faut dire un mot de Yachin, que vous décrivez aussi dans ce livre, le grand gardien de but de l'équipe de l'Union soviétique, d'une époque.
Complètement. Et avec Yachin, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter quasiment une histoire de l'Union soviétique. Parce que Yachin, donc, qui a été désigné meilleur gardien de but du XXe siècle, est né en 1929, c'est-à-dire au moment où Staline vraiment assoit son pouvoir en Union soviétique. Il échappe un peu aux années noires du stalinisme, parce qu'en fait, il va commencer à s'imposer en professionnel deux jours avant, je ne sais plus, c'est deux jours avant ou deux jours après la mort de Staline. Donc il n'est pas du tout associé, parce qu'il y a eu aussi, évidemment, plus qu'une tentative, une mainmise de l'État stalinien sur le football. Et lui, quelque part, va devenir un peu le symbole du dégel, de la détente.
Donc c'est au début des années 50.
Fin des années 50, ouais. Et des années 60. Il est envoyé partout, parce qu'il est sympathique, parce que c'est un immense sportif. Il est un peu l'ambassadeur de charme de l'Union soviétique, l'un des ambassadeurs de charme. Il y a Gagarine à l'époque, et puis il y a Yachin.
D'ailleurs, il figurait sur l'affiche de la Coupe du Monde
2018, ouais. Absolument. Et donc ça correspond à une période qui est un peu plus douce en Union soviétique, même s'il n'y a pas vraiment une période douce en Union soviétique, mais en tout cas celle du dégel et de la détente. Et puis il prend sa retraite dans les années 70, et puis là, de nouveau, ça se ferme. Et puis, lorsque l'Union soviétique va totalement se gripper, le corps de Yachin va totalement se gripper. C'est un énorme fumeur, il buvait pas mal aussi, et très jeune, enfin relativement jeune, hein, une cinquantaine d'années, il va devoir être amputé, il a toutes sortes de problèmes physiques, et il meurt quasiment en même temps que l'Union soviétique. Donc il y a cette espèce de trajectoire, cette espèce d'improbable parabole entre la vie de ce gardien, qui a été le symbole de l'Union soviétique, et la vie de son pays, de l'Empire soviétique.
Olivier Guez, parlons maintenant d'un autre grand nom du football, ô combien, Zinedine Zidane, qui permet de dire beaucoup de choses sur, à propos de son itinéraire et du football aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Donc, le Zidane d'abord de 1998, avec d'abord l'ambiance de cette fameuse finale contre le Brésil en France en 1998.
Zidane sur le corner, voilà le premier but de ce match, le premier but de cette finale. Zinedine Zidane de la tête sur ce corner, la 28e minute de jeu. Attention à ce nouveau corner qui est tiré par cette fois-ci Djorkaeff. Oui, la tête et le but. Et le but de Zidane, le deuxième but français marqué par Zinedine Zidane pendant les arrêts de jeu de cette première mi-temps. L'équipe de France de football qui mène maintenant 2-0.
La deuxième mi-temps qui est partie une nouvelle fois avec les Brésiliens qui repartent maintenant. Il faut que les Français...
Toute l'équipe de la France a fait une grande première mi-temps. Il faut qu'on a été très présents, on a bien commencé notre match. Chose qu'il fallait faire, chose qu'on s'était dit avant le match parce qu'il fallait bien commencer contre les Brésiliens qui étaient toujours très très bons en début de match. Donc on l'a fait nous, on a réussi à ouvrir le score et puis ça a été bien plus facile après. Et ensuite, on a souffert en deuxième mi-temps, comme vous l'avez vu. Mais on a tenu bon, on n'a pas pris de but, et ça a été important.
On voit le poisson avec Dugarry. Dugarry qui met côté gauche vers un ballon pour Petit tout seul, qui frappe et qui marque. Et qui marque. La France va être championne du monde. 3-0. C'est fabuleux. Cette fois, la France est championne du monde. C'est historique. C'est fini. La France, pour la première fois de son histoire, championne du monde de football.
Alors ça, Olivier Guez, c'est le Zidane de 1998. Il y a l'autre Zidane, celui de 2006. Et il y a eu un grain de sable où on s'aperçoit que le héros, le demi-dieu, est finalement humain. C'est la fameuse tête, le coup de boule de Zidane contre un défenseur italien, le sinistre, désormais Materazzi. Écoutons cette évocation sonore concoctée par Vanessa Orvinsky.
Le carton est rouge. C'est terminé pour Zinedine Zidane. La carrière s'arrête ici pour Zidane.
On parle toujours de la réaction. Forcément, la réaction est punissable. Elle doit être punie. Mais si je réagis, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous croyez, vous, dans une finale de Coupe du Monde comme ça, alors que je suis à 10 minutes de la fin de ma carrière, je vais aller faire un geste comme ça et parce que ça me fait plaisir de faire ce geste? Est-ce que vous pensez à ça? Une minute.
Il l'a sans doute insulté, hein, parce que pour une réaction aussi virulente de la part de Zidane, il a dû lui parler de sa famille ou de quelque chose.
Il y a une provocation, et une provocation très grave, c'est tout. Maintenant, je vous dis, mon geste, il n'est pas pardonnable. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, là. Je dis juste qu'il faut sanctionner le vrai coupable. Et le coupable, c'est celui qui provoque. Voilà.
Suite de ce numéro d'idées consacré au football, avec tout ce qu'il sous-entend, notre invité est Olivier Guez. Dans cette nouvelle édition de l'Éloge de l'Esquive, dans le livre de poche, il y a un nouveau texte, lui, neuf, sur Zidane, une légende, où l'on apprend, et j'ai été sidéré, que vous êtes passé à côté de Zidane, et je vous cite, « Je suis passé à côté de Zidane du temps de sa splendeur ». Ça paraît incroyable.
Passer à côté, c'est un grand mot, mais effectivement, on en faisait tellement sur Zidane à l'époque. À un moment, j'ai un peu décroché, quoi. Il y avait, j'ai du mal un peu avec ces phénomènes d'adulation absolue, et donc j'ai un peu passé à côté. Après, évidemment, je me souviens de la finale de 98, je me souviens de la finale de Ligue des Champions 2002, enfin plein de grands moments de sa carrière, mais. Oui, mais un peu comme Maradona d'ailleurs, tout ça vient avec le temps, c'est-à-dire ce sont des joueurs, ce sont des faits de jeu, ce sont des personnalités qui souvent se bonifient avec l'âge.
Pourtant son itinéraire vous parlait. Vous avez aperçu que finalement, sa vie, son itinéraire, oui...
Je m'en suis aperçu quand j'ai travaillé sur ce texte qui avait été publié dans la revue Légende l'an dernier.
Vous concernez, ça
oui,
ça
quelque part.
Penser à des
moi aussi, j'ai un père qui vient d'Afrique du Nord, j'ai aussi un père qui vient d'un milieu modeste, qui a joué le jeu de l'intégration à la française, qui a encouragé ses enfants pour que ce soit de bons républicains, et de la même manière que le père Zidane vient d'un milieu très modeste d'Algérie, et il a encouragé ses fils un peu de la même façon. Il y a ce que j'écris dans le texte, il y a quelque chose un peu de la mère de Romain Gary d'une certaine manière.
Promesse de l'aube.
Absolument, il y a cette idée de espèce de fantasme de la France, de la République. Moi, je suis très attaché à cette idée-là. Je trouve ça extrêmement dommage, en fait, qu'elle ait perdu beaucoup de son charme, ou qu'elle soit devenue un peu l'otage de certains. Et c'est une génération, à la fois la génération des pères comme ma génération, celle de Zidane, puisqu'on a 2 ans d'écart. Pas exactement la même carrière, mais on a 2 ans d'écart, qui nous était très importante, oui, absolument.
Ouais. Et puis il y a la personnalité, le caractère qui vous touche, le caractère de Zidane.
Oui, il y a ce côté ombrageux, il y a ce côté, je veux dire, cette sortie, elle est dramatique, elle est théâtrale. C'est-à-dire qu'il réussit une Coupe du Monde exceptionnelle, vraiment exceptionnelle.
Et il marque lors de ce match, hein.
Il marque, je veux dire, il a le courage, le toupet de tirer ce qu'on appelle une panenka. C'est-à-dire que si le gardien reste sur sa ligne, c'est un ballon comme si un enfant de 8 ans lui envoyait. Donc il faut avoir un courage immense pour faire ça. Il faut une forme de mégalomanie même. Mais ça, c'est très intéressant. Et cette sortie dingue contre Materazzi, le coup de boule, enfin tout est... oui, un geste de matamor quelque part chez Zidane à ce moment-là. Mais le Zidane plus âgé, évidemment, est plus intéressant que l'enfant presque qu'on entend après la Coupe du Monde 98. C'est déjà un très grand footballeur, mais c'est un gamin encore, quelque part. Il va basculer dans autre chose.
Et vous soulignez, Olivier Guez, dans ce texte, c'est ce passage entre la période de joueur et la période d'entraîneur. Vous nous rappelez, vous nous apprenez qu'il a joué le jeu comme tout le monde.
Absolument, il est reparti à
zéro.
C'est un grand travailleur, c'est parti voilà, de ses valeurs qu'on lui a inculquées. Et alors qu'il aurait pu avoir des ponts d'or et prétendre à des équipes premières, des équipes seniors dès le départ. Non, lui, il fait ses classes, comme tout le monde, et il repart au charbon. C'est assez fascinant, quelque part. Mmh. Il aurait pu simplement vivre de ses rentes, de ses contrats publicitaires, et apparaître comme ça de temps en temps, comme d'autres anciennes vedettes l'ont fait. Non, lui, il repart au turbin. Il y a quelque chose d'assez fascinant, quand même.
Vous soulignez également que la carrière de Zidane, en quelque sorte, montre l'évolution du football.
Complètement. C'est-à-dire que donc Zidane est né au début des années 70. Il y a des transferts, bien évidemment. Il passe de Cannes à Bordeaux, de Bordeaux à la Juve, mais pour des montants qui, aujourd'hui, paraissent ridicules si on les compare aux montants des transferts. Je crois que je me suis amusé à calculer... Le transfert de Cannes à Bordeaux de Zidane est 360 fois moins élevé que le transfert de Mbappé de Monaco au PSG 25 ans plus tard. C'est hallucinant, quelque part. C'est incroyable. Donc, ce que je racontais dans ce texte-là, c'est que quelque part, la première vie de Zidane, elle correspond à un certain roman français. Celle de l'intégration, de gens venus du Maghreb qui jouent le jeu de la République et certaines valeurs inculquées. Et puis à partir d'un certain moment, à partir de la Coupe du Monde 98, il bascule, il nous raconte, c'est fini, la France, c'est plus du tout le roman français, c'est le roman du football mondialisé. Donc des sommes extravagantes, des contrats publicitaires, ce qui est tout aussi intéressant, mais on bascule dans un autre monde. Et Zidane est à cheval sur les deux mondes.
Il y a un club que vous n'aimez pas beaucoup, qui symbolise également cette évolution, c'est le Paris Saint-Germain.
Oui, même pas du tout.
Rebaptisé par certains Qatar Saint-Germain.
Absolument. Moi, j'ai beaucoup aimé, gamin, le PSG de Francis Borrelli. Je me souviens, ce geste théâtral d'embrasser la pelouse, c'était magnifique. Après les victoires en Coupe de France, j'ai beaucoup aimé le PSG de Canal. Mais le PSG du Qatar, non, ça passe pas. Enfin, je ne trouve pas ça intéressant. Enfin, ça fausse totalement la concurrence. Alors, ils sont pas très bons, pas très malins, donc ils arrivent quand même à perdre dès qu'il y a une équipe un peu solide en France. Hein.
Ils sont forts avec les faibles avec les forts, dites-vous.
Absolument. Ils ont fait une campagne européenne plutôt correcte cette année, mais ces centaines de millions d'euros tombés du ciel, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je trouve pas ça intéressant. On pourrait aussi parler du Qatar, c'est-à-dire comment le Qatar utilise le PSG. Et moi, ça me va pas tellement non plus. L'agenda du Qatar, l'agenda politique n'est pas du tout le mien. Et je trouve ça dangereux pour le football. C'est ce qui va probablement perdre le football. Parce que c'est pas intéressant d'avoir un club qui gagne 10 championnats d'affilée. Bon, cette année, ils ont eu la bonne idée de le perdre contre Lille. Encore une fois, c'est pas contre le PSG, mais c'est contre cette logique-là qui pour moi, ne repose absolument plus sur une logique sportive.
Oui, parce que ce club a tué la compétition, le championnat de France. Enfin, sauf cette année où il y a une surprise.
Sauf cette année, mais encore une fois, dès qu'ils ont un peu de concurrence, c'est marrant, ils perdent le championnat. Mais en tout cas, si on regarde les 10 dernières éditions, effectivement, je sais plus, il y en a 7 ou 8 titres. Et au bout de là, il reste 8 journées, ils sont déjà champions. Et ça fausse la concurrence par ailleurs. Donc ça n'a aucun intérêt. Et c'est très politique, ce que fait le Qatar. C'est très malin. C'est-à-dire que lorsque vous avez un poster de Cavani ou de Neymar, vous oubliez ce que bricole le Qatar par ailleurs.
Et si nous parlions maintenant, Olivier Guez, de Kylian Mbappé, c'est le Zidane d'aujourd'hui, non ? Ou c'est autre chose ?
C'est autre chose. C'est pas du tout les mêmes personnalités. Il joue pas au même poste. Mbappé est vraiment un pur produit de sa génération. C'est un génie du football. Extrêmement précoce, plus précoce que Zidane. Très très fort, mais c'est pas du tout les mêmes personnalités. En tout cas, c'est un peu trop tôt pour parler de la personnalité d'Mbappé, qui est très impressionnante, mais laissons-nous mûrir, on va voir.
Idée.
Attention, Mbappé, la frappe de Mbappé, le but de Kylian Mbappé, ça fait 4-1, l'équipe de France est en route vers un deuxième titre de champion du monde.
Le fameux 4e but de la dernière Coupe du Monde, but de Kylian Mbappé, évidemment, qui donne encore plus des regrets aux Camerounais. Il faut rappeler que le père de Kylian est Camerounais, qu'il a failli devenir Camerounais, mais la vie en a décidé autrement. Il aurait pu donc jouer au sein de l'équipe du Cameroun, ce qui évidemment donne d'infinis regrets aux Camerounais. Je vous propose d'écouter cette correspondance de Polycarpe Essamba lors de la Coupe du Monde en 2018.
En cette période de Coupe du Monde, Isaïe, vendeur d'équipements sportifs au marché central de Yaoundé, fait de bonnes affaires. Et plus que tout autre, le maillot floqué du nom de Kylian Mbappé tient le haut du pavé.
Ce maillot était là au marché central, mais nous, ça ne nous intéressait pas. Neymar lui avait ravi la vedette. Mais depuis qu'il a marqué son premier but, on s'est rappelé que c'est notre frère et c'est devenu une très grande star pour nous. Quand on veut un maillot, c'est d'abord celui de Kylian Mbappé.
Si le talent du numéro 10 français fait l'unanimité, il y a quand même chez certains une pointe de regret, notamment le fait qu'il ne joue pas pour le Cameroun.
C'est un joueur vraiment extraordinaire, d'une efficacité incommensurable. Il a la mentalité camerounaise, c'est-à-dire la volonté de réussir à tout prix. Sauf qu'on a un seul regret, il aurait dû revenir au pays. C'est tout, nous on le voit dans l'équipe camerounaise.
Quand il a inscrit ses buts, nous, ça nous a fait mal. On aurait aimé qu'il fasse ce travail pour les Lions Indomptables.
Au pays des Lions Indomptables, pays où trône Samuel Eto'o et Roger Milla, Kylian Mbappé, quoique revêtu du bleu, blanc, rouge français, est déjà lui aussi en train de se faire une place parmi les étoiles.
Il n'y en a qu'un qui tienne la balle comme ça. Il n'y en a qu'un qui... Il n'y en a qu'un qui a cette vitesse-là. Il n'y en a qu'un qui... Mbappé! Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous rêver.
Il donne donc des regrets, Kylian, au Camerounais.
Qui n'en aurait pas? Qui ne voudrait pas avoir Kylian Mbappé dans son équipe?
On a beaucoup parlé de sa personnalité, en tout cas pendant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, où chacun a souligné sa maturité.
Il est très mature, c'est un champion d'exception. C'est quelqu'un qui, dès le départ, savait où il voulait aller, qui avait conscience de son potentiel, qui est un immense travailleur. Et donc ça, c'est la définition du champion d'exception. Donc, je suis très curieux de voir jusqu'où il va aller. Parce qu'avoir une Coupe du Monde à 20 ans, même pas 20 ans, c'est rarissime.
Il a dit qu'il voulait tout gagner. Hein.
Mais il a quasiment déjà tout gagné. Ouais. Mais il faut qu'il quitte Paris, je pense, s'il veut vraiment tout gagner. Je pense que la prochaine étape pour lui, c'est s'imposer dans un grand club historique. Type le Real, le Bayern, la Juve, Barcelone, que sais-je. C'est-à-dire les quelques équipes qui peuvent se l'offrir. C'est vous qui l'avez dit, Pierre-Edouard.
Non, mais
un club où... où l'histoire est tellement forte qu'il est aussi obligé d'aller vers cette histoire-là, ce qui n'est pas du tout le cas du PSG Qatarim.
Vous notez aussi dans ces différents textes que je recommande chaudement, Olivier Guèze, que cette expression « black blanc beurre » vous a beaucoup énervé, même si en 98 vous aviez un peu de recul, parce que vous disiez, oui, après on a vu des analyses de sociologues et autres qui parlaient d'une nouvelle France alors que rien n'est arrivé.
Non, rien n'est arrivé.
Au contraire.
Oui, je me méfie toujours des analyses, que ce soit 98 ou 2010 ou 2018, que sais-je. C'est-à-dire qu'une équipe de football, en gros, sa composition tient un peu du hasard. En tout cas, les couleurs qui composeraient une équipe de France, c'est un hasard. Elle peut être plus ou moins blanche, plus ou moins noire, plus ou moins métisse. Et bon, c'est comme ça. Mais de là à en faire la métaphore, soit d'une France qui va très bien, soit d'une France qui va très mal, je trouve ça totalement ridicule.
Une surinterprétation.
Oui, bien sûr, mais qui était à l'image de la France d'aujourd'hui, où il faut tout commenter, où il faut voir des symboles partout où il y en a. Je veux dire, les footballeurs sont, si on parle des footballeurs, pas des footballeuses, sont très jeunes, des athlètes exceptionnels qui gagnent des fortunes invraisemblables et qui ne représentent qu'eux-mêmes. Après, ils doivent évidemment avoir un comportement quand même plus ou moins digne, enfin, mieux vaut plus que moins, et donc représenter la nation sur la scène internationale quand il y a des grandes compétitions. Mais il ne faut pas y voir plus qu'une équipe de sport, au fond. Il faut pas tirer trop de conclusions de ce que représente l'équipe de France.
On parlait tout à l'heure de ce football moderne et de l'argent qui coule à flot. Il y a eu une tentative de création d'une nouvelle Ligue des Champions. Quel regard avez-vous porté sur cette information qui était finalement le stade final de cette évolution?
Mais on y arrivera. Certains pensent que le projet est enterré. Moi, je pense pas du tout. Je pense que certains clubs ont tenté, en fait, de voir un petit peu les réactions que ça suscitait.
Donc je rappelle qu'il s'agirait de créer une Coupe d'Europe des clubs.
Un championnat d'Europe
avec toujours les mêmes clubs.
Toujours les mêmes clubs, comme la NBA, c'est un club fermé. Donc ils sont sortis du bois, et quelque part ils ont mis une énorme pression sur l'UEFA. Avec l'idée, justement, de toujours essayer d'avoir de plus en plus d'argent et au détriment des autres clubs qui seraient exclus par définition de cette chose. Je pense que l'UEFA a senti la balle passer pas très loin et donc va aller, mais ce qui était déjà le cas, va aller un peu dans le sens, mais tout en essayant de garder la mainmise, notamment sur les revenus qui sont gigantesques de la Ligue des Champions. Oui, là on arrive vraiment au... Je pense à la frontière d'une certaine idée du football, qui est une tendance très forte depuis une vingtaine d'années. Les clubs changent de logo, les clubs sont conseillés par des consultants, comme n'importe quelle entreprise. Ça devient des entreprises. Il y a trop de matchs, il y a trop de transferts, il y a trop d'argent. Il y a quelque chose, à mon avis, qui va finir par casser. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, si vous prenez un club comme le Real ou le Bayern, un match Real-Bayern, c'était une immense affiche. Ça arrivait peut-être tous les 3 à 4 ans. Là, vous avez les poules et vous avez les quarts et vous avez... Il y a un moment, en fait, les gens se lassent. C'est plus un événement. C'est-à-dire, trop de foot tue le foot comme tout le reste, en fait. Et là, je pense qu'on arrive à un point dangereux.
Diego Armando Maradona, guerrero en la gramilla, con las armas escondidas en el arte futbolero de sus pies, que en un paño albiceleste se envolvió para lucir la 10, que el pueblo le bordó en el alma. Juegue Diego y suelte magia aunque pasen los 90, que el silbato es todo nuestro y no habrá un soplo para el fin. Mientras viva la redonda, su romance en media cancha, seducida de gambetas y caricias de botín.
Olivier Guèze, continuons notre conversation et notre voyage autour du football à partir de vos textes. Si je prononce le nom de Maradona, quelle est votre réaction? Que dites-vous spontanément?
Ah, c'est des émotions très fortes, c'est presque une émotion physique en fait. Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Alors on va dire Pelé, mais Pelé est un immense joueur, mais c'est la personnalité qui me touche. Et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec tout ce que Maradona a pu faire, pu dire, mais ça n'a aucune importance. Il avait un tel charisme, il avait un tel charme, c'est un tel sportif, tel footballeur. Et puis il y a sa relation au démon, quelque part, qui moi me fascine, j'aime les personnages. Maradona, c'est un peu, c'est comme le Caravage, c'est comme Gainsbourg. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des génies absolus. Il y a ce combat intérieur avec l'ange, avec le démon, et le démon, quelque part, les pousse encore à exceller, mais il va encore plus loin dans les excès. Et c'est absolument fascinant.
Je vous propose de partir pour Buenos Aires, et nous sommes le 25 novembre 2020, le jour de la mort de Maradona. Et on a une idée là de la tristesse qui a traversé le pays à ce moment-là.
Ils se sont rassemblés par milliers près de l'obélisque, en plein cœur de la capitale. Malgré leur tristesse, les supporters de Diego Maradona ont chanté ensemble des slogans en mémoire de leur idole décédée ce mercredi. Raphaël et Joaquin ont 14 ans, ils sont venus en vélo depuis la banlieue de Buenos Aires.
J'ai reçu un message disant « Diego est mort ». Je suis resté en état de choc, je ne pouvais pas y croire. J'étais très très angoissé.
Diego représente beaucoup pour l'Argentine et pour ce que nous sommes, nous les Argentins. On est venu rendre hommage au grand footballeur qu'il était.
Drapeau argentin, bleu ciel et blanc à la main, Myriam Potrichot, 52 ans, tenait elle aussi à se rendre ici, en famille, pour saluer la mémoire de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays.
Et bueno, Diego...
Diego représente tout à mes yeux, il représente l'Argentine. On voyage et quand on dit qu'on est argentin, on nous cite tout de suite Maradona. Il représentait le peuple argentin. Il avait ses défauts en tant que personne, bien sûr, mais en tant que joueur de foot, c'était une idole totale.
La carrière et la vie de Diego Maradona n'ont en effet pas échappé à la polémique. Il était notamment critiqué pour ses addictions à l'alcool et aux médicaments. De nombreux excès qui avaient fortement affecté sa santé ces deux dernières décennies. C'est finalement une crise cardiaque qui l'a emporté. Il avait fêté ses 60 ans il y a moins d'un mois.
Avec Diego Maradona, nous passons à autre chose que le football.
Alors, on retourne à la mythologie de Gilberto Gil. On parle d'un joueur, là aussi, dont le destin épouse un peu la trajectoire d'un pays sur un demi-siècle, à savoir l'Argentine. L'Argentine après Perón, l'Argentine de la dictature, l'Argentine du retour à la démocratie, l'Argentine qui jouit, l'Argentine qui pleure, l'Argentine irrationnelle. L'Argentine en défaut, l'Argentine a la culture brillantissime et l'Argentine a la culture footballistique unique en son genre. Et Diego est l'incarnation de toutes ces Argentines-là. C'est extraordinaire, un joueur qui vous raconte un pays pendant un demi-siècle. C'est formidable.
Vous avez des pages très savoureuses sur le football en Argentine, sur cette religion, et vous prenez. Il y a un texte où vous imaginez qu'il y ait, je ne sais pas combien de clubs à Paris, je ne sais plus combien il y a de clubs à Buenos Aires.
À Buenos Aires, il y a une vingtaine de clubs professionnels, en équivalent de la Ligue 1, de la Ligue 2, et je m'imaginais la même chose à Paris, où il y a un malheureux club en Ligue 1. Et j'imaginais une dizaine de clubs à Paris, oui, effectivement.
Alors, justement, Olivier Guez, si vous nous lisiez le passage, vous imaginez dans le livre un Paris, une capitale française composée de multiples clubs qui reflèterait en quelque sorte ces différents quartiers.
Oui, si vous voulez, bien sûr. J'ai fait un rêve l'autre jour. Paris ne possédait pas seulement un club de football de haut niveau, mais une dizaine. Chaque week-end, les Parisiens vibraient au classico rythmant la capitale depuis plus d'un siècle. L'étoile rouge de Salingrad, sous les yeux d'El Mélenchon, son dictateur d'honneur, affrontait les Green Hidalgo, Paris 10, venus à trottiner jusqu'au stade Rosa-Luxembourg, construit au bord du canal de l'Ourcq. Les supporters du Raja de Belleville étaient interdits de déplacement à la Golda Meir Arena du FC Teshuvah, Paris 17e. En bas de tableau, l'AS Langweilig, Paris 15, jouait régulièrement sa peau en fin de saison contre le Guangzhou 13, un promu ambitieux. Tous les 6 mois, le Super Classico paralysait la métropole. Des bagarres entre supporters avaient régulièrement lieu au parc de Luxembourg. Le Qatar Saint-Germain, 6 victoires en Ligue des Champions, défiait le Racing Saint-Germain, 4 victoires en Ligue des Champions, dont les nouveaux maillots Adidas, couleur crème à bandeaux rouges, faisaient fureur au bon marché. 88 000 spectateurs se massaient régulièrement au stade Albert Camus, place Saint-Sulpice. Le président du Racing, Antoine Gallimard, était sur la sellette depuis que des rumeurs insistantes lui prêtaient l'intention de vendre le club fondé par son grand-père aux Américains de Random House. Ce Paris imaginaire s'appelle Buenos Aires.
Ça, c'est un scénario de science-fiction, on l'a bien compris, mais ça donne une idée de ce que pourrait être le football, de ce qu'est le football en Argentine, parce que là, c'est le cas.
C'est exactement ce qu'est le football à Buenos Aires. Vous avez des dizaines de clubs, vous avez le super, super classico River Boca, qui est l'occasion de bagarres, de disputes, de spectacles hallucinants dans tout Buenos Aires. Vraiment une rivalité, une jalousie qui est fascinante à observer. Et puis, vous avez des tas de clubs importants. À Buenos Aires même, dans chaque quartier, la vie tourne autour du stade, la vie tourne autour du football. Et puis dans le Grand Buenos Aires, il y a le Grand Buenos Aires, puis encore il y a la province de Buenos Aires, et là vous avez des dizaines de clubs. Donc vous n'avez quasiment que des derbies. Il y a quelques clubs à Rosario et ailleurs, mais au fond, le cœur, vraiment le cœur du football argentin bat à Buenos Aires et dans sa région.
On a évoqué Olivier Guèze, le Brésil, on a évoqué l'Argentine. Pourquoi cette passion pour l'Uruguay que vous donniez gagnante cette Absolument. Équipe en 2018.
Ce qui m'a coûté très cher. Oui, c'est une de mes premières chroniques dans Le Monde. J'expliquais pourquoi l'Uruguay allait gagner la Coupe du Monde. Parce que je trouve fascinant qu'un pays de 3 millions et quelques d'habitants soit parmi les plus grandes nations du football. En plus, coincé entre deux géants. C'est vraiment le caillou dans la chaussure et de l'Argentine et du Brésil. C'est un pays qui produit d'immenses joueurs toutes les générations. Et la façon dont ils jouent ensemble sous leur maillot national est quelque chose d'extrêmement touchant. C'est-à-dire 3,5 millions d'habitants, c'est même pas la moitié du Grand Paris. Vous imaginez une équipe en Coupe du Monde régulièrement, en quart de finale, demi-finale, deux victoires en Coupe du Monde, record des victoires en Copa América, l'équivalent de l'Euro pour l'Amérique du Sud. C'est impressionnant quand même. C'est très impressionnant. Et ils ont un vaste ce mélange d'hargne et de talent que je trouve extrêmement touchant pour un tout petit pays qui, au fond, si on pose la question à la plupart des gens à quoi ils associent l'Uruguay, c'est vraiment le football. Mmh. Il y a d'autres choses, bien évidemment. Mais en tout cas, la première chose à laquelle on associe l'Uruguay, c'est le football.
Donc vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle aventure avec cet Euro qui commence, Olivier Guèze? Vous allez regarder tous les matchs et vous allez ensuite suivre une cure de désintoxication comme pendant la Coupe du Monde?
Comme à chaque fois, c'est probable, ouais, c'est probable. Je pense que je vais regarder beaucoup de matchs, mais je me réjouis de retrouver le football international et puis après on verra bien. Mais en tout cas, en plus on l'a attendu, un an de décalage. Et puis il faut prendre des forces, des vitamines avant la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine. Ce sera moins drôle.
Coupe du Monde, d'ailleurs, effectivement, que vous critiquez à la perspective de voir une Coupe du Monde au Qatar, comme beaucoup, vous semble effectivement
assez problématique. C'est un pays sans tradition footballistique. C'est un pays qui fait travailler des esclaves qui meurent sur les chantiers. C'est un pays où la femme n'est pas du tout l'équivalent de l'homme. C'est un pays qui a un agenda politique très particulier, qui soutient souvent l'islamisme politique. Donc oui, je pense pas que le Qatar soit le pays idéal pour organiser une Coupe du Monde. C'est un pays où on pourra pas boire, c'est un pays où les supporters n'ont pas la liberté. Parce que, bon, une Coupe du Monde, il y a des matchs, il y a des rencontres, mais il y a tout un folklore autour. Il y a des gens qui se rencontrent, des gens qui se retrouvent. C'est une grande, grande fête, une Coupe du Monde. Je pense pas que le Qatar soit taillé pour ce genre de fête.
Et vive le football, quand même?
Vive le ballon. C'est pas mal. Oui, vive le football. Oui, 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 encore. Je termine sur une note un peu mélancolique. Nous sommes tant aimés, presque, quelque chose de cet ordre-là. Voir des gamins taper dans un ballon, ça restera toujours un spectacle magnifique et fascinant. Donc, le football a encore de beaux jours devant lui, j'imagine.
Merci Olivier Guèze. Il faut lire Une passion absurde et dévorante, votre livre publié aux éditions de l'Observatoire, écrit sur le football. Il faut lire également ou relire cet éloge de l'esquive, enrichi d'un texte sur Zinedine Zidane, publié cette fois en livre de poche.
Merci Pierre-Edouard.
L'idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
RFI.